Les nuits de France Culture.
La nature contre la culture. La raison contre l'instinct. Voilà d'éternels débats philosophiques qui s'appliquent merveilleusement bien au monde de la cuisine. Certains prônent une éducation stricte. Passage par l'école hôtelière, de nombreux apprentissages successifs dans des grandes maisons, une connaissance théorique et des bases techniques sans faille. D'autres voient la cuisine comme une affaire d'instinct, de talent. Si on est un vrai cuisinier, si on possède ce génie, alors on apprend sur le tas, sans devoir faire appel à des connaissances académiques. Il y a des chefs qui construisent leurs plats avec minutie, après des mois, voire des années de réflexion. Mais il y a aussi des énergumènes, des exceptions comme Bernard Loiseau, qui imagine un plat et l'exécute immédiatement à la perfection. Instinct inexplicable, talent brut, il ne prétend pas pour autant qu'il ne faut pas un travail monumental pour atteindre les sommets gastronomiques qui lui ont valu d'obtenir 3 étoiles au guide Michelin en 1991. Dans ce deuxième de 4 épisodes des Nuits Magnétiques de Laure Adler et Bruno Sourcy, consacré au plaisir de la bouche, on sent que se prépare un changement de paradigme dans la cuisine française. Les nombreux chefs qu'on y entend, de Joël Robuchon à Bernard Loiseau, en passant par Alain Dutournier, parlent avant tout du produit. L'heure n'est plus à la glorification du chef, à la mise en avant d'une cuisine complexe et technique, mais bien à la valorisation du plus beau produit possible. La cuisine se fait donc également en dehors des fourneaux. Il s'agit de connaître les meilleurs producteurs, de collaborer avec les meilleurs maraîchers pour que le chef n'ait qu'à laisser s'exprimer le produit dans l'assiette. Une émission pleine de goût, de plaisir et d'invention donc, en compagnie d'une poignée des plus grands chefs de la gastronomie française, diffusée pour la première fois le 30 décembre 1987, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
Ça marche, deux couverts avec une huître, une salade buissonnière, deux rames pour suivre. Ah, excusez-moi, une salade haricotant. Une fois ces huîtres, on fera marcher deux saucisses. Il y a bien deux saucisses qui marchent, dont une plus grande que l'autre.
Les plaisirs de la bouche, le goût, le plaisir, l'invention.
Mon plat le moins réussi. Le moins réussi. Voilà, on pose une colle. Mon plat le moins réussi. Le moins réussi. Bah, je sais pas, j'ai beau chercher, je vois mon plat le moins réussi. Là, c'est dur. Hein.
Je me souviens, ça faisait beaucoup rire les Landais, notamment les joueurs de rugby, qui savaient que j'étais à la recherche de bons produits et qui envoyaient des télégrammes 3 ou 4 par semaine à mon mari en lui disant « Il repérait un beau poulet de 2 kilos, viens immédiatement. » Bon, bah, maintenant, c'est terminé. Les poulets, ils arrivent tout seuls du Gers, d'une ferme où on les élève correctement. Enfin, ils ne sont pas morts pour rien parce qu'on essaye de bien les préparer. Je me souviens d'une cliente qui avait mangé un poulet de ferme et qu'il trouvait vraiment très ferme pour un poulet de ferme. Elle me dit, c'est pas possible, il est venu des Landes à pied, votre poulet, pour être musclé comme ça. C'était drôle, mais enfin, elle était vraiment pas habituée.
Moi, le meilleur souvenir, c'était hier, quoi. Bon, c'est simple, j'étais à Strasbourg. Chez Emile Young, la cuisine à la bière et puis des huîtres pochées dans une sauce au vin qui est composée de Riesling, de Noilly, de cognac réduit, cuite et réduite avec des échalotes hachées. Et c'était succulent, avec des algues autour. Ça, c'est partie des nouveautés. Avec des algues autour, c'était succulent. Bon, mais c'est vrai que si je fais un repas fantastique la semaine prochaine, après je vais un petit peu oublier Emilio, quoi.
Sur une mer de salades frisées, ça et là parsemée de morceaux de ricotta, navigue un demi-melon d'eau avec, à son bord, un petit commandant sculpté dans un fromage de Hollande et dirigeant un équipage mou esquissé dans une cervelle de veau cuite dans du lait. À quelques centimètres de la proue, un écueil en pain de sienne. Éclabousser le navire et la mer de cannelle et de poivre rouge. De la gelée de poulet, dans laquelle sont à demi enchâssés des cubes de viande de jeunes chameaux crus, frottés avec de l'ail, et des boules de viande de lièvre, très cuites, dans du vin. Nuit magnétique, toute cette semaine, les plaisirs de la bouche. Bruno Sourcy, Laure Adler. Table de mots en liberté, mais simultanée. D'après les futuristes, nous sommes faits de ce que nous mangeons et de ce que nous buvons. Nous pensons, nous rêvons, nous agissons, en fonction de ce que nous avalons. Alors, attention, ne tentez pas de vous échapper, n'allez pas chercher votre burger sucré pour vous le réchauffer dans son bain d'huile noirâtre, laissez-vous donc aller au règne des convoitises et des délices insoupçonnées. La cuisine est un jeu d'enfant, littéralement, une remontée du souvenir, un corps ouvert au plaisir, un art fait de tout ce qui ne se voit pas, de concordance et de simplicité, de produits naturels cuits juste à point, d'exquise fraîcheur et de goût franc, de mariage fabuleux, de déglaçage de sucre et d'alliances insolites. La cuisine de grand-papa faite d'amoncellement et d'accumulation, de gras, de riche et de chair, est finie. La dite nouvelle cuisine, version terrine de queue de mouche à la vapeur de verveine, n'en finit pas de mourir. Alors, où va la cuisine? Pas la grande, la vraie, celle qui est faite par celles et par ceux qui vous font monter l'eau à la bouche. Les plaisirs de la bouche numéro 2, le goût, le plaisir, l'invention. Premier service est tout d'abord la vie quotidienne des chefs, celle de Bernard Loiseau qui nous a raconté hier qu'il avait débuté comme apprenti à l'âge de 16 ans chez Trois Gros et qui tient actuellement l'établissement prestigieux de Monsieur Dumaine, la Côte d'Or à Saulieu.
Moi la vie quotidienne, je me lève à 8h le matin, donc je descends le matin, je vais déjà saluer tout mon personnel, chose qui est très importante, j'ai toujours été élevé comme ça chez Trois Gros, bon je vais voir mes gars, je discute avec eux, on met en place la journée, on voit notre cahier de réservation des clients, de ce qui se passe. Et puis après, ben voilà, comme je vous dis, je suis un chef d'entreprise, je me retrouve le cul assis sur un bureau, en train de développer le courrier, devant la comptable qui m'amène des chèques à signer, le bazar et tout. Donc c'est un autre métier là déjà, ça c'est pas le grand truc qui me plaît énormément, mais il faut quand même faire face à ça. Et puis après, arrive 11h, on mange ensemble avec le personnel, c'est l'heure de la soupe.
Et
on se fait des bons petits plats. Et ben, on se fait de la cuisine qui n'a rien à voir avec celle qu'on fait aux clients, on mange une cuisine canaille, on mange des potées, des potes au feu, beaucoup de cochonailles, des choses comme ça. Et puis après, à midi, les clients arrivent, donc moi je suis là. Moi je vous dis franchement, je suis rarement absent de chez moi, hein, sauf si, par exemple, si j'aime au Japon, j'aime aux États-Unis, je ne voyage pas moi. Je suis tout le temps ici, je me dois à mes clients. Moi j'estime que quand les clients viennent ici, bon c'est vrai, il y a le nom qui est affiché sur la façade, les gens ils viennent ici, c'est un ensemble. Donc ils viennent pour un tout. Donc à partir de là, je m'excuse, je dis que la gueule du chef est comprise dans l'addition, quoi. Quand les gens y payent, c'est vrai, le chef est connu, il sort des bouquins de cuisine, il fait ceci, il fait cela. Et puis donc il dit, tiens, il est pas là, ça y est, ça commence à lui monter à la tête, lui. Ça y est, il est parti, il est en Chine, il est je sais pas où. Et là, moi, je sens, au travers de la clientèle, on entend quand même les gens parler en disant, tiens, on a été chez un tel, il était pas là. Les gens sont déçus. Parce que maintenant, c'est devenu une grande fête, c'est une pièce de théâtre. On frappe trois coups, arrive le personnel de salle qui commence à faire toute sa gymnastique autour de la table. Ensuite, arrivent les premiers plats, la carte et tout. Et puis, à la fin du repas, qu'est-ce qu'on attend? Ben, on attend le maître. Alors, il va en salle, il fait le tour des tables, il discute. Et puis, madame qui veut la recette de la tarte aux pommes, monsieur qui dit, vous savez, je fais le marché maintenant. Parce que c'est vrai, les hommes font de plus en plus de marché et tout. Il se passe vraiment quelque chose, quoi. Et donc tout ça, ça fait le service. Après l'après-midi, alors moi je suis un homme de la nature, puisque je vous ai dit que j'étais de l'Auvergne. Alors moi, quand c'est l'époque des champignons, je prends mes bottes, je me tire dans la campagne aux champignons, je chasse, je vais à la chasse, à la pêche. Il faut absolument que je me... Mais ce que je dis, il faut que je me vide la tête quand même, hein, parce qu'on est quand même très pris, très sollicité et tout. Et puis donc je pars 3 heures, tout le temps tout seul, je pars tout seul dans la nature. Et puis après je rentre vers 5-6 heures, et puis là c'est le soir de la soupe avec le personnel, et puis on rattaque le service du soir. Et puis le soir, ça peut durer très tard. Vous savez, on fait beaucoup d'heures. Hein. Moi, je suis jamais couché avant minuit et demi, 1 heure du matin. Et... Parce que les gens, après, ils passent au coin de la cheminée. Et puis ils disent, est-ce que le chef peut venir avec nous? On va lui offrir un verre et tout. Mais moi, personnellement, je bois que du Perrier. Parce que si je bois un cognac à toutes les tables, on me ramasse la petite cuillère. Hein. Parce que tous les gens, ils veulent vous offrir un digestif à toutes les tables. Ça fait quand même dur. Et puis donc, on discute. Comme je discute avec vous au coin du feu, de mon métier, de moi, ce que je sens de la cuisine, comment je veux qu'elle soit faite et tout.
Vers moi le quart.
J'espère qu'ils ne vont pas tarder, parce que sans ça, mon gigot va être trop cuit.
Les voilà sûrement.
J'y vais.
Alice, nous ne sommes pas trop en retard.
Pas du tout. Comment allez-vous?
Oui, bien, merci.
Bonsoir. Vous avez une robe ravissante.
Merci.
Bonsoir. Bonjour, Henri.
Ça va bien?
Bonjour, Raphaël, ça fait tellement plaisir. Moi
aussi.
Écoutez, tant pis pour les cocktails. Moi, je vais vous demander de passer à table tout de suite, parce que sans ça, mon gigot va être trop cuit.
Ben, ça tombe bien, je meurs de faim.
Très bien. Je vous ai préparé un petit potage aux herbes du jardin.
Les bases, déjà, avant tout, c'est les produits. Moi, je vous dis que les produits, c'est 60% du travail. Hein.
Mais ça suffit on est pas.
Oui, bien sûr, après, il faut le talent, et puis il faut un peu d'ambition et tout. Mais, vous savez, hein, si vous donnez de la margarine, du saumon congelé à Bocuse ou Trois Gros, ils ne vont pas être fakirs, hein, ils ne vont pas vous sortir le meilleur saumon du monde. Hein. S'il est déjà naze avant de commencer, il ne va pas être bon à la sortie. Hein. Alors, donc, déjà, les produits, c'est plus de 50%. Et puis après, bon, ben, il vient l'intuition, il vient le talent... Et alors donc à partir de là, si vous préférez, moi au fur et à mesure des années, j'étais donc chez Trois Gros, donc moi j'ai connu une certaine cuisine avec des sauces encore, vous voyez ce que je veux dire, et puis que j'ai continué à alléger de plus en plus, en me disant quand même, j'entendais les clients qui venaient manger, et puis demander au maître d'hôtel, est-ce que vous avez un plat, mais alors pas trop de crème, hein, léger, hein, on veut pas trop de sauce. Alors que dans le temps, on disait d'un grand chef, quel saucier. Maintenant, c'est plus un critère pour moi, je dis tout de suite, si on me dit que je suis un saucier, ça me plaît pas moi. Parce que moi, je fais des jus, c'est des essences, c'est des saveurs qui sortent des... C'est comme si vous pressez, vous voyez, un pigeon, il a son sang à l'intérieur. Vous le pressez après la cuisson, il sort son sang, c'est naturel. Alors à partir de là, après, pourquoi encore remonter au beurre derrière, lié au foie gras, ou mettre de la crème, ou flamber au calvados? Le pigeon, il est mort pour rien, là. Il a plus le goût de pigeon, il est mort pour rien, le pigeon. Alors donc, pour le pigeon, comme moi, je veux amener aucun élément extérieur, je veux que ça se fasse par lui-même. Donc déjà, une chose, il faut des pigeons étouffés. Bon, beaucoup de gens travaillent avec des pigeons saignés. Alors saigner, ça veut dire qu'il n'y a plus de sang à l'intérieur. Et puis vous cuisez votre pigeon, ben, il n'y a plus rien du tout. Vous pouvez pas faire son jus. Le jus, il se fait au travers de ce qu'il a à l'intérieur. Donc moi, tout ce qui est volaille, c'est toujours étouffé, jamais saigné. Alors donc le pigeon, je le rôtis. Et puis quand il est rôti, il a tout son sang qui coule. La carcasse, je la pile avec un pilon et donc il a tout son sang qui est là. Et puis on déglace les sucs avec une pointe d'eau, quoi, comme on fait un steak chez soi. Moi, toute ma cuisine est basée sur... On dit l'oiseau, le roi de la cuisine à l'eau. Bon, là, il faut que je remette les pendules à l'heure avec ça, parce qu'il y a plein de gens qui viendront jamais manger ici, parce qu'ils croient que chez l'oiseau, il y a une marmite de flotte au milieu dans la cuisine, et puis qu'on met dedans le canard, les navets, les poireaux, tout, et puis qu'on sert à la louche avec de l'eau, quoi. Non, faut être sérieux. On n'essaie pas la cuisine du pot-au-feu, là. Et donc, la cuisine à l'eau, c'est quoi? C'est sur la base du steak. Bon, vous avez une poêle chez vous, vous cuisez un steak, donc vous mettez du beurre dans la poêle. Quand le beurre est chaud, vous mettez votre steak. Donc vous le retournez des deux côtés, dès qu'il est cuit, vous retirez le steak, vous jetez les graisses, et tous les sucs, c'est collé au fond de la poêle. Vous déglacez avec un filet d'eau. Immédiatement, tous les sucs se mélangent avec l'eau, et vous avez le meilleur jus du monde, là, puisque c'est le jus du bœuf. Alors toute ma cuisine, je l'ai basée là-dessus. C'est ça, c'est des déglaçages à l'eau. C'est la cuisine la plus naturelle qui puisse exister. Parce que, si vous préférez, je trouve que il y a eu là une certaine cuisine il y a 20-30 ans, qui était très élaboré au niveau de la crème, très lié avec des fonds et tout. Pourquoi ? Parce que, il faut bien se mettre une chose dans la tête, il n'y avait pas les frigos comme il y a aujourd'hui, les camions frigorifiques comme il y a aujourd'hui, et que quand Dumaine, il commandait un saumon à Brest, il arrivait en vélo, il mettait une semaine pour venir là. Donc automatiquement, il arrivait ici, il n'était pas aussi frais qu'on l'a aujourd'hui. Moi, j'appelle là, il est midi, là, j'appelle dans 5 heures à Boulogne, demain matin, j'ai les poissons devant ma porte. Donc pourquoi encore aller les détorier ? Le secret de la cuisine, c'est bien de laisser aux choses le goût de ce qu'elles ont. Si on vous sert un saumon et qu'il a le goût de turbo, eh ben, le coup est raté. Si on vous sert un canard et qu'il a le goût de lapin, c'est raté. Et donc Kurnonski disait « laisser aux choses le goût de ce qu'elles ont ». À mon avis, à l'époque où il l'a dit, ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque où il le disait, c'était une cuisine très, très riche, très lourde et tout, et qui cachait, on cachait avec une cuillère de crème, on nappait. Moi, je nappe rien, moi, je mets les jus au fond et je pose le produit dessus. Il n'est jamais nappé, je ne nappe jamais. Donc c'est le produit pour le produit. Alors à partir de là, bon ben j'ai élaboré toute ma cuisine comme ça, quoi. Donc je n'utilise jamais la crème, ça n'existe pas. Il n'y a pas une cuillère à café de crème fraîche dans ma cuisine. Et en plus, 40% de sucre en moins dans les desserts. Parce que les desserts sont beaucoup trop sucrés dans les restaurants. Les gens, on le voit, ils demandent une bouteille d'eau. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la bouche pâteuse et ils sont lourds en sucre. Donc tout ça, c'est l'évolution des temps. Et il faut quand même le faire à ce lieu quand même, qui a été quand même le lieu sacré où tous les matins, le marchand de crème arrivait avec des seaux, il y en avait partout, autour des bras, sur les épaules, sur la tête, il y en avait partout. Ça, c'était des centaines de litres de crème qui rentraient ici. Alors, arriver ici à faire ce genre de cuisine-là, à ce lieu, il faut déjà le faire. Vous savez que j'ai même un menu végétarien sur ma carte, qui marche quand même à 25% de la clientèle. Et quand je l'ai lancé, on m'a dit, mais il est fou, l'oiseau va pas venir chez lui pour bouffer des légumes. Ben, je vous dis tout de suite, c'est qu'il faut quand même pas rêver. On a deux sortes de clientèle ici. On a la clientèle qui casse la tirelire pour venir manger ici. Alors ceux-là, ils vont pas bouffer des légumes, je vous le dis tout de suite. Ça va être la grande fête, là. C'est le foie gras, c'est... on vient manger au restaurant une fois par an, donc c'est vraiment la fête. Et il y a le client d'élite qui, l'oiseau, c'est sa cantine, quoi. Le midi, il est chez Chapelle, le soir, il est chez Bocuse, on met chez... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il arrive là, il voit un menu légumes, il dit, mais c'est génial, ça. Parce qu'il voit partout du turbo, des huîtres, tout ça, on mange partout pareil, c'est vrai, tous les produits, mais ils sont pas préparés de la même façon. On mange du turbo partout, bon, mais il y a turbo et turbo, parce que chacun a son truc, son tour de pâte et tout. Hein. C'est comme un peintre, il a les mêmes peintures dans les mains, dans le pinceau, hein, mais ça n'a pas le même résultat. Et puis donc, quand ils voient ce menu végétarien, les gens ils sont assez impressionnés. Et 25% de la clientèle mange ce menu.
Je vous ai préparé un petit potage aux herbes du jardin.
Alain Dutournier, autre chef super toqué, Carré des Feuillants, Paris.
Je crois que la cuisine, c'est comme tous les métiers, et en plus tous les métiers passion, il faut des bases. Si on n'a pas de bases, bon, tout le monde actuellement, c'est la grande tendance, tout le monde est autodidacte, mais enfin, la plupart des autodidactes ont quand même un passé, ou parfois même une formation, mais enfin, il est de bon ton de le dire. Mais je pense que sans base, on ne peut pas faire quelque chose de sérieux. On ne peut pas construire, on peut pas, on peut faire des recettes. Il y a eu la folie un peu de la nouvelle cuisine où les gens mélangeaient n'importe quoi. On recherchait parfois plus les couleurs, ou les formes plutôt que le goût. Bon, mais je pense que maintenant, tout ça, c'est du passé. Et on est arrivé à faire quelque chose de dépouillé. On joue le goût des produits, on joue la vérité. Et pour jouer la vérité et le goût, il faut sublimer chaque fois, trouver l'ingrédient qui donne le déclic. Et là, il faut à tout prix, je pense, maîtriser au départ les produits, les cuissons, pour pouvoir bâtir, pour construire un plat nouveau. Bon, ben, on n'en construit pas tous les jours. Hein. Je pense que quand on fait à peu près 4 recettes par an, 4 à 5 recettes, disons, créatives par an, c'est bien. Qui mérite d'être retenu et gardé pour notre petite histoire de la cuisine. Mais dès que j'ai la chance de voyager, je suis vraiment très curieux, très observateur, et là je suis avec une grande attention tout ce qui se passe quand je suis dans un pays, parce que je retrouve toujours, surtout bon, au travers de la cuisine asiatique notamment. Je parle de l'Asie en général, hein, on retrouve beaucoup de choses qui existent dans notre cuisine, qui est revenue, bon, parce que la cuisine française, je sais que ça va faire grincer des dents, mais la cuisine française, Si on n'avait pas eu les influences maures par le sud-ouest, turques par l'Alsace, les gens qui allaient à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui ont amené tout à fait toute l'Europe centrale, qui a amené des tas de choses, si on n'avait pas eu les mers pour faire des échanges, et puis les Italiens avec donc Médicis et Marco Polo en Italie avant, bon, mais je pense qu'on serait toujours au sanglier bouilli ou au rôti, et puis on mangerait quelques racines, parce que si on prend tous les légumes, on dit « Ah, ben moi, j'aime pas les produits exotiques et tout », mais enfin, si on prend l'ail, l'aubergine, le haricot, la pomme de terre, tout ce qui fait la cuisine française, la tomate, c'est tout des produits qui viennent d'autres continents. Alors bon, mais je pense que l'histoire de la cuisine française continue. On a d'autres produits. On est maintenant, bon, mais il faut avoir peut-être l'esprit mondialiste en cuisine. Garder ses façons de cuire, ses goûts, ses humeurs, peut-être, qui correspondent à ses origines. Mais je pense qu'il ne faut pas être non plus sectaire en disant « je ne fais que tel produit ou tel autre ou tel style de cuisine ».
Vous vous installez comme vous voulez. François à ma droite.
Oui.
Raphaël ici. J'ai failli ne pas faire de potage et puis je me suis dit, un repas sans potage, est-ce vraiment un repas ?
Michel Crisolde, critique gastronomique, Goemio.
Une des caractéristiques générales de la cuisine actuelle, c'est qu'on cherche à valoriser des produits régionaux tout en les traitant de manière légèrement différente. Je me souviens d'une conversation récente à Lyon avec un jeune chef qui s'appelle Jean-Claude Péquet, qui m'expliquait la différence entre la morue et la lyonnaise traditionnelle. Bon. Avec, je ne sais plus, du vinaigre dessalé, avec du vinaigre. Et la morue telle qu'il la faisait, lui, la même, mais avec un petit peu de crème fraîche, un petit peu d'ail, etc. Enfin, des petites différences. À chaque fois, on essaie de changer. Bah, il reste des cuisines régionales assez typées, bon, notamment celle du sud-ouest. Je pense que c'est une des plus caractéristiques, hein, si on va dans le Gers. Je crois que pour le gourmet gourmand, c'est-à-dire celui qui aime bien, non seulement bien manger, mais beaucoup manger, se rassasier à satiété et s'en souvenir pendant des années de l'énorme gueuleton qu'il a fait un jour, c'est encore dans le Gers qu'il faut aller. Ça reste le département où on mange, je dirais, comme il y a 40 ans. Enfin, comme on dit qu'on mangeait à 40 ans, du moins. Enfin, plus que 40 ans, parce que c'était après la guerre. Enfin, quand on mangeait, il y a du temps de nos parents et nos grands-parents. Sinon, il y a ou des cuisines qui s'internationalisent un peu, je pense à la Côte d'Azur, niçoise, etc., etc. Il y a des cuisines qui sont renouvelées. C'est les cuisines alsaciennes et bretonnes. Dans les jeunes chefs qui apparaissent actuellement, les nouveaux, les nouvelles étoiles de la gastronomie française, ça apparaît aux deux bouts du territoire, là, et en Bretagne, qui n'était vraiment pas une région de gastronomie, et en Alsace, l'Alsace étant devenue la première région gastronomique de France, sans doute, même devant Lyon. Mais quand on va dans une ville comme Lille, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a un énorme renouvellement de la cuisine et avec un retour à des plats régionaux, quoi. Bon, à Lyon, il y a aussi eu un progrès, parce qu'à Lyon, on avait une cuisine très typée, hein, tablier de sapeur, gras double, les quenelles, etc., etc. C'était pas vraiment, donnait pas dans la légèreté absolue. C'est plus vraiment adapté à l'époque. C'est-à-dire, c'est un repas où on doit à la fois prendre un tablier de sapeur, des quenelles, et puis du bœuf avec des lentilles. On supporte plus beaucoup ça à notre époque, quoi. Donc ça change.
Un moment, je vais m'occuper du gigot.
bien sûr, la cuisine de terroir existe. Le grand, grand problème, c'est que les terroirs en France, il y en a très peu qui mériteraient le nom de cuisine de terroir. Bon, si, c'est sûr que quand on va en Alsace, on a envie de manger certains plats. Je parle beaucoup de l'Alsace parce que je pense que dans la cuisine de terroir ou la cuisine de nos provinces et qui est en train de rentrer dans la grande cuisine française qui était établie avec des règles qui étaient un peu qui remontent à Escoffier et où on n'osait pas, si vous voulez, servir dans cette cuisine des plats régionaux. Bon, je pense qu'il y a une évolution. Cette cuisine de terroir est en train de favoriser le développement de la cuisine française en général. Mais effectivement, les grands terroirs, c'est l'Alsace, où il y a une culture, un patrimoine culinaire. Je pense que c'est la Gascogne, avec bon, tout le sud-ouest, il y a aussi une histoire, il y a des tas de choses que les gens, même à Paris, ne soupçonnent pas, ne mangent pas, que nous mangeons entre nous. Bon, mais par exemple, si je veux faire plaisir à des... Si, je parle dans l'absolu, si je voulais faire plaisir à des amis cuisiniers, par exemple, qui vont me comprendre, parce que là aussi, on se comprend beaucoup mieux entre cuisiniers qu'avec des journalistes ou avec des clients à qui on croit avoir expliqué, fait vivre. Mais là, il faut qu'il y ait osmose et c'est long. Alors, il y en a qui ont compris, mais c'est souvent difficile. Alors, si vous voulez mieux, pour moi, actuellement, cette saison, si j'avais envie de faire plaisir à des amis qui me comprennent, bon, mais j'essaierai d'avoir chez moi des produits qui sont interdits, c'est-à-dire des alouettes, des petites grives. Je ne parle pas d'ortolans, puisque là, c'est fini. Bon, mais j'essaierai d'avoir les premières pibales, c'est-à-dire les alevins d'anguilles, mais préparées, c'est comme des spaghettis, ouais, très, très, très fins. C'est rare, c'est cher, ça se pêche juste dans cette période, là, on commence. Et cuisiner comme on le fait chez nous au bord des gaves, pas du tout comme en Espagne où c'est bouilli dans de l'huile avec une fourchette en bois. Bon, nous, on fait quelque chose d'un peu plus raffiné. Je parle du local, hein, je parle pas de ce qui se fait dans tous les restaurants. Alors bon, mais des pibales, par exemple, ce serait la saison. Boire le vin nouveau de notre région avec des cépages bien précis qui correspondent à ces produits de saison. Manger des châtaignes, parce que c'est la saison pour manger des châtaignes cuites avec les dernières feuilles de figuier dans le pot, avec de l'anis. Bon, mais c'est maintenant ou jamais. Et puis, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait ajouter à cela des morceaux du canard que la plupart des gens ne mangent pas, c'est-à-dire les carcasses de canard fraîches, on appelle ça les demoiselles, en gascon français, que l'on fait griller sur des sarments de vigne. Il reste à chaque fois un demi-millimètre de chair, vous voyez, sur l'os. Donc on sale et on poivre généreusement, poivre noir bien sûr, et on retourne après, et à l'intérieur de la carcasse, dans le dos de l'animal, il y a des ris, qui sont des glandes, sur lesquelles on met, qui sont donc croustillées, et sur les braises, on met de la mie de pain avec un peu d'ail et de persil. Et on mange ça à la pointe du couteau, où on a des grandes moustaches un peu grasses, mais on grignote, et ça coûte 3 sous, mais c'est une fête. Mais ça, c'est un plat vraiment d'initié. Et on ne peut pas servir ça dans un restaurant.
Ouais. On passera un peu de la tamis pour la purée. Ouais. Il faut les ouvrir un peu, hein. C'est toujours lui qui va chercher les trucs. Comment? Tu suis le mouvement?
Gérard Almandou, la cagouille.
L'autre jour, j'étais dans la cuisine, là, et il y avait de l'huile d'olive qui chauffait dans une poêle. Et l'odeur du piano, du fer chaud, avec cette huile d'olive, a fait fulgurer dans ma tête un souvenir d'enfant. Je devais avoir 3 ans, je pense, entre 3 et 4 ans, en Espagne, et j'ai retrouvé l'odeur, la même odeur, de l'hôtel dans lequel on était avec mes parents, où il y avait de l'huile chaude qui chauffait dans une poêle. Est-ce que j'avais une tête qui a mieux retenu les odeurs, les goûts, et qui s'en est énormément imprégné? Je ne sais pas. De toutes les manières, ma cuisine est fortement inspirée par ma mère et ma grand-mère. J'ai vu faire affaire à la cuisine à ma mère, qui est une cuisinière honorable de famille et qui faisait à manger pour ses enfants et pour les amis. Et j'ai vu faire la cuisine à ma grand-mère, qui était donc charentaise, qui, elle, avait tous les jours 12-15 personnes à nourrir, parce qu'elle avait une famille nombreuse. Et mon grand-père avait une entreprise de charpente, et elle faisait à manger pour les ouvriers, pour tout le monde. Alors j'ai le souvenir de ma grand-mère, c'est elle qui m'a appris à cuisiner le poisson, qui l'a appris à ma mère et qui me l'a appris, si vous voulez. C'est une cuisine très simple, très dépouillée, familiale, mais une cuisine d'arômes, d'odeurs, de saveurs, dont certaines me sont restées gravées. J'ai jamais fait les merveilles que faisait ma grand-mère, mais ça c'est un souvenir d'odeur, du sucre sur les merveilles chaudes. Une honneur. Un jour, je resservirai ça dans le restaurant. C'est la quête perpétuelle des Madeleines de Proust. Hein. Retrouver voilà, des passages de goût, des passages, mais beaucoup d'odeur. Hein. En fait, le goût, c'est essentiellement l'odorat. Hein. C'est l'odorat qui nous donne le maximum de perception. Et le plaisir de refaire.
Vincent Giraud, les fêtes gourmandes.
On est très nostalgique en général de ce qu'on a pu manger gamin. Ça, on ne veut pas le reconnaître, mais c'est comme ça que mangent la majorité des gens. Et moi, j'essaie de jouer là-dessus. En clair, j'essaie de trouver un dessert qui m'évoque le pain et chocolat que j'avais en sortant de l'école. Ce qui n'est pas simple du tout, parce que bon, quand j'avais 5-6 ans, je connaissais beaucoup moins de choses, donc le pain au chocolat avait dans ma tête beaucoup plus de valeur qu'il ne peut en avoir maintenant. Donc il faut relativiser tout, et pour arriver à restituer ça, mettre en fait beaucoup plus de choses. Technique, ardu, j'ai pas encore résolu et ça fait 6 mois que je cherche ça. Et là, je crois que il faut. Moi, j'ai dans une famille, on n'était absolument pas restaurateur et où le dimanche, on mangeait un poulet ou un rôti de porc. Alors, la mémoire que je peux avoir des goûts, elle est pas très riche. Je veux dire, c'était le père Guillot disait que les meilleurs cuisiniers venaient des régions de vin parce que du fait d'avoir goûté beaucoup de vin, les gens avaient un palais très fin. Je veux dire. Ça, je crois que c'est assez vrai. Il y a une question d'expérience de ce point de vue qui est très importante. Et moi, je ne l'ai pas trop. Donc, en fait, je l'ai au travers des gens que je rencontre dans mon restaurant. Je suis quelqu'un je ne sais pas me faire des amis, mais j'ai su me faire des amis par le fait de donner à manger à des gens au travers du restaurant complètement. Pas des amis complaisants, hein. Les amis qui, le jour où ça va pas, savent me le dire. Et puis en fait, on avance. J'avance en cuisine beaucoup avec ces gens-là. En discussion, justement, sur leur mémoire à eux.
Joël Rebuchon, chez Jamin.
Vous savez, le goût, c'est quelque chose qui se développe souvent dans son enfance. On mange des plats quand on n'est pas très réceptif ou qu'on n'aime pas beaucoup. Puis plus on en mange, plus on déguste. Je crois qu'on se fait un palais, de toute façon. Hein. Je crois que il y a certains produits, comme dans la boisson, qu'on n'aime pas, qu'on n'est pas réceptif au départ et qu'après, on est réceptif. Le goût, c'est ce qui excite les papilles gustatives. C'est quelque chose qui apporte... peut-être, quand c'est vraiment réussi, je pense une certaine jouissance. C'est le plaisir du manger. Je ne sais pas si on atteint le goût juste. Le goût juste, c'est la perfection. C'est d'avoir atteint le summum du produit, du goût du produit, de l'avoir amené au meilleur résultat possible. Mmh.
20h10, madame.
Et alors, vous pouvez retirer parce que 25 minutes par livre, c'est amplement suffisant.
Bernard Loiseau.
Je dis toujours, un cuisinier, s'il ne sait pas manger, il ne peut pas faire la cuisine. C'est impossible. Moi, je mange dans les restaurants, même des grands restaurants, et je ne vous dirai jamais les noms, je ne suis pas là pour démolir le métier. Et quand il me sert un truc, je dis, c'est pas possible, le gars, il m'a servi ça, c'est pas vrai, c'est pas manger, c'est pas possible. Alors ça, c'est pour moi le plus grand critère. Ça, il faut avoir un palais très développé pour pouvoir faire la cuisine aux autres. Dans un restaurant, des fois, le gars, il me sert un truc, je mange ça, mais je dis, c'est impensable, c'est insipide, archi-cuit, baignant dans la graisse et tout. Mais je dis, c'est pas possible, ce gars-là, il sait pas manger, c'est pas vrai. Alors ça, bien entendu, alors ce palais, vous allez me dire comment je l'ai eu, j'en sais rien. Je l'ai eu peut-être au contact de, certainement de mes parents, bon, qui n'ont rien à voir avec le métier, mais qui ont toujours été des fins gourmets, ils ont toujours aimé la bonne chair. Donc ma mère découpait toujours les recettes dans les bouquins, les choses comme ça, elle nous faisait toujours des petits plats le dimanche et tout, elle essayait, elle a toujours fait la cuisine, quoi. Elle prenait pas des trucs, des boîtes de conserve, des trucs surgelés ou je ne sais quoi, elle faisait vraiment la cuisine, peut-être avec des produits très simples, mais vous savez, je dis de toute façon, un grand chef, hein, on ne juge pas avec le ragoût de homard aux truffes farci de caviar avec des huîtres, hein. Moi je dis qu'on juge un grand cuisinier sur des plats hyper simples, hein. Bon, par exemple, moi, je travaille le merlan, je travaille du cabillaud, je travaille des choses comme ça, et je peux vous dire une chose, c'est là où on juge un grand chef, à mon avis, hein, c'est trop simple de faire un homard au caviar, hein. Tout le monde peut le faire, hein. Mais ça, c'est sûr que le palais développé, c'est primordial, hein, ça. Si le gars n'a pas un palais développé, je vois mes cuisiniers, je leur dis toujours, hein, je leur dis, goûte ce que tu fais. Mais goûte ce que tu fais, t'es en train d'envoyer ce plat-là, tu sais même pas est-ce qu'il est assez salé, est-ce qu'il est assez poivré, est-ce que ceci, est-ce que cela, tu l'as pas goûté. Je dis, tu peux pas être un cuisinier, toi, si tu goûtes pas et que t'as pas de palais, et tu peux pas apprécier, c'est pas possible. Par exemple, on prend les Japonais. Nous, on a beaucoup de Japonais qui viennent en stage chez nous. Et moi, on m'a dit, Bernard, arrête de prendre des Japonais en stage parce qu'ils vont nous piquer les recettes et puis ils vont tout refaire. Alors, je dis, bon, ils vont peut-être refaire, mais je veux dire un truc, les Japonais. Moi, j'étais au Japon. Ben, je vous dis tout de suite, la cuisine est insipide, la cuisine au Japon. Et pourtant, les Japonais sortaient de chez Chapelle, chez Trois Grottes, chez Bocuse, ils entraient dans tous les grands restaurants. Et je peux vous dire une chose, c'est que quand on mange leur cuisine, c'est peut-être bien magnifique. Ah, ça, pour les photos, c'est très beau. Pour un photographe, alors là, c'est génial. Là. C'est un décor, on n'ose même pas y toucher. C'est une vraie peinture. Puis quand vous goûtez, c'est fade. Fade! La cuisine japonaise, on la rehausse avec un bol de soja, quoi, à côté. C'est fade. Et pourtant, les gars, on travaille dans toutes les grandes maisons. Donc, d'où vient votre question? Le palais est primordial.
Ça s'éduque, le goût?
Je pense, oui. Moi, je pense que j'éduque mes gars ici, chez moi. Alors, expliquez. Moi, je trouvais qu'ils faisaient, quand on leur fait faire un truc, je goûtais, je dis, mais c'est fade, mon gars, regarde ça, il manque un mordant. Pour moi, la cuisine, c'est un mordant, vous voyez ce que je veux dire? On fait de la cuisine, hein. Il faut faire, la cuisine, il faut qu'on prenne un coup de poing, quoi. Quand on mange quelque chose, il faut qu'il se passe quelque chose dans le palais, tout se passe dans les papilles, la cuisine. Tout se passe là, tout est sensibilisé par les papilles. Alors, si vous avez une cuisine insipide, moi aussi, vous mangez les yeux fermés, ce que je cherche, vous savez ce que c'est, hein, tout de suite. Boum. Ah oui, vous dites ça, c'est des oursins, boum, ça, c'est des huîtres, ça, c'est du canard, on sait ce que c'est, ce qu'on mange, c'est très important. Alors, donc, ça s'éduque. Mais moi, j'éduque tous mes gars qui sont ici à leur dire, voilà, il faut que là, tu mettes une pointe de moulin à poivre, parce qu'il manque ça pour faire ressortir tel arôme, là il faut que tu mettes une pointe de vinaigre ici parce que ça va apporter cette agressivité qui manque, et ainsi de suite. Et là je les éduque à ça.
Beaucoup de gens ne le savent pas, mais pour découper le gigot, il faut se lever, n'est-ce pas François?
Eh oui.
D'abord c'est beaucoup plus correct, rappelle-toi de ça.
Merci pour la leçon. Je vous sers, Simone.
Volontiers. Merci.
Passez-moi l'assiette de Raphaël.
Vincent Giraud, les fêtes gourmandes.
Dans la bouche, on sent à des endroits différents toutes les saveurs primaires, l'amer, le sucré, l'acide, le salé. Donc à partir de là, si, et c'est ce qui se passe ici, si dans chaque plat, je me pose comme condition de mettre l'ensemble de ces saveurs, il y a une amplitude en bouche qui tout de suite est très importante. Et ça, c'est pas facile à gérer, je veux dire. Quand on mange un plat, s'il y a un amer, ça va servir un peu, si un plat devait être un texte, ça sert de point final. Et ça redonne une sorte de capacité à regoûter la fourchette suivante. Et ça, c'est très important. C'est le problème du foie gras, d'ailleurs, habituellement, qui, du fait qu'il est gras, nappe la langue et reste fixé sur la langue, qui fait que, au bout de deux ou trois fourchettes, on ne sent plus rien. C'est complètement linéaire. Tandis quand on mange une salade de foie gras avec des haricots verts et il y a une vinaigrette à côté, on ressent plusieurs fois et le plaisir revient. Il faut savoir que nerveusement, le nerf se fatigue au bout de 3 secondes. 3, 4 secondes. Après, la sensation disparaît. Parce que le nerf est saturé. Donc il faut absolument casser. Ça, pour moi, il est clair qu'en, par exemple, en dégustation de vin, le fait de pouvoir avoir 5, 6 vins différents devant soi, de laisser traîner son nez au-dessus des 5, 6 verres en même temps, c'est un plaisir extraordinaire. Et ils prennent les uns les autres par rapport aux autres une valeur folle. Et ça, je crois que c'est ce qu'on ne pratique pas assez en cuisine française encore. C'est cette différence, cette notion qu'il faut qu'un plat aille un peu dans toutes les directions. Une direction acide et sans que les choses soient mélangées. Parce qu'à ce moment-là, on ne va pas les apprécier. Les choses redeviendront linéaires, si vous voulez. Voilà le principe de fonctionnement. Alors après, il y a le second niveau. Il y a les oppositions de genre, c'est-à-dire des oppositions de choses qui proviennent de la terre avec des choses qui proviennent de la mer. Et ça, avec le côté iodé qu'il peut y avoir, avec le côté symbolique aussi, je veux dire, ça, moi, j'aime beaucoup. Ce sont des notions qu'on trouve dans les cuisines étrangères, notamment la cuisine portugaise. Ils font beaucoup de porc ou de veau, coquillages, ce genre de choses. C'est superbe. Mais ça, c'est moi, personnellement, tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Mais sur une carte, je vois un intitulé dans ma tête, étant cuisinier professionnel, et c'est une déformation, je forme un goût dans ma tête. Avant même que le plat soit là, j'ai un goût inscrit en bouche, je veux dire. Parce que je suis cuisinier. Et si le plat qui arrive correspond exactement à ce que j'ai formé, ça ne m'intéresse pas.
Alors, écoutez. On a le droit de reçu vers.
Vous n'en savez rien vous-même, vers moins 20, moins de quart.
Voilà, allez, en marche.
Jacques Puiset, spécialiste du goût juste. Et connaisseur de ce qui se passe quand on ouvre la bouche.
Ah, bien, on ouvre la bouche et on attend donc tout un langage. C'est les mets et les boissons, ce sont des personnages, c'est comme au théâtre. Et ils vont jouer leur scène. Et ainsi, ils vont nous raconter tout ce qu'ils entendent d'eux. C'est à nous d'être à leur écoute. C'est-à-dire que le plat va nous dire « je suis plus ou moins... » équilibré au niveau des stimulations de base. Je suis plus ou moins onctueux, je suis râpeux, je suis gluant. Mes arômes de bouche sont à côté floral ou au contraire épicé, enfin, etc. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il y a vraiment un registre et à nous d'être à son écoute. Et malheureusement, il y a des gens qui engloutissent tout comme ils dorment au théâtre. Et bien là, ils dorment ou devant leur mets, et alors ils vont recevoir des calories, des vitamines, etc. Mais évidemment, il n'y aura aucune communication avec le plat. Et ce sont des gens qui, ça leur coûte très cher de manger, parce que c'est pas la peine de sacrifier toutes ces cellules pleines de poésie et pleines de, des fois de même de rigueur, sans les comprendre.
François, un peu de flageolet.
Surtout préparé à l'huile d'olive, j'adore ça.
J'en ai mis.
Expliquez-moi.
Raphaël.
Avec plaisir. Votre gigot est excellent.
Pas trop cuit ?
Parfait.
Vous savez, le goût, il n'y a pas grand-chose. Théoriquement, il n'y a que 4 goûts. Le sucré, le salé, l'acide et l'amer. C'est la combinaison de tout ça et la combinaison des arômes. Donc ce qu'on devrait appeler la flaveur, comme les Anglais appellent flavor. Donc la flaveur qui est une combinaison du goût, donc, qui est donné par la langue, avec ses quatre goûts, plus toute la variété d'arômes et de combinaisons d'arômes qui est infinie, et plus les sensations qu'on pourrait appeler tactiles, les sensations de mou, de croquant, enfin de gélatineux, etc., qui sont des sensations. Et puis il y a même d'autres sensations qu'il faudrait définir. Je ne sais pas si elles sont d'ordre physique ou d'ordre gustatif, mais je crois qu'elles sont d'ordre physique, comme les sensations de piquant, qui, elles, ne sont pas, à mon avis, je ne donne pas le piquant comme un goût. Hein. Je crois que, à la limite, c'est une brûlure. Et lorsque vous mangez, par exemple, des plats très, très piquants, très souvent, même le pourtour de vos lèvres sont légèrement gonflés, ce qui prouve que c'est peut-être une brûlure ou peut-être au premier degré ou un truc comme ça. Mais ça, c'est un petit côté excitant.
La prochaine fois, vous viendrez dîner à la maison. Vous goûterez mon caviar à la cuillère. Je sais que vous aimez ça. Florence nous préparera son fameux mélange. Vodka et aquavit.
Oui, oui, oui.
Composer un plat, c'est avoir dans le plat un élément acide, un élément amer, un élément doux, un élément piquant. Une matière principale qui soit évocatrice et qu'on va mettre en valeur. Ça dépend complètement de l'intensité de la matière principale. J'essaie d'avoir un grand respect des équivalences. Et toute la recherche, je suis joueur de Go, c'est d'aller trouver des espaces de liberté qui n'ont pas été utilisés aussi, qui vont pouvoir vous surprendre. Et il faut que ça reste cohérent. Ça, c'est très très important.
Encore un peu de gigot, Raphaël?
Oui, avec plaisir.
Vous l'aimez pas trop cuit?
Bon, ça m'est égal.
C'est délicieux. Merci. Mais je suis peut-être un peu perverse. J'ai un faible pour les flageolets américains en boîte.
Oui, on peut créer des goûts, que même avant, on s'imagine pas. Et qu'on a créé parce qu'on a pensé à un plat, on a fait tel mariage avec telle chose, et puis paf, on met ça en bouche, et on dit, tiens, c'est un goût d'anisé qui est là, vous voyez, qui sont créés par un mariage entre telle et telle chose, et qu'on n'a pas l'idée dans la tête de ce que ça peut amener. Et puis on goûte ça, tiens, voilà un goût nouveau. Et moi, dans ma cuisine, par exemple, j'utilise jamais d'épices. Puisque là, je suis en train de vous expliquer que pour moi, la cuisine, c'est laisser aux choses le goût de ce qu'elles ont. Donc si j'amène des épices, je vais... Vous voyez ce que je veux dire? Je vais apporter un goût qui n'est pas du tout mon style de cuisine, quoi. Par exemple, je cherche des écrevisses pas trop, les écrevisses, moi, je les fais au maximum concentrées pour qu'elles gardent leurs arômes. Et il y en a qui vont mettre du curry avec. Bon, ben, ça fait des écrevisses au curry, oui, pourquoi pas. Mais pour moi, ça n'a pas le goût de l'écrevisse. Il y a quand même ce curry qui revient et qu'on a en bouche, quoi. Donc, moi, c'est blum, une cuisine brute de décoffrage, quoi. Mais il faut absolument des produits extraordinaires, vous voyez ce que je vous dis là? Parce que là, attention, je travaille sans filet, moi, là, hein. Si j'ai un produit qui est un peu qui a traîné un peu dans les frigos, les choses comme ça, ça ne passe pas, puisque je n'ai pas la louche, moi, rien du tout. Hein. Il y a que des jus, des petites essences. Même des fois, si je peux servir un plat sans sauce, je n'en servirai pas et tout.
Vous voulez prendre quelque chose ou bien vous préférez passer à table tout de suite?
Personnellement, je meurs de faim.
Alors asseyons-nous et mangeons.
Michel Piau, critique gastronomique, Figaro.
Je pense à un plat créé par Joël Robuchon il y a un an et demi, qui est une galette de truffes sur une fondue d'oignons et de lard fumé. Et c'est vrai que ces produits humbles, que sont l'oignon et le lard fumé comme support pour le plus noble de tous peut-être qu'est la truffe, créent dans la bouche une harmonie fantastique. Je pense à d'autres choses. Je pense dernièrement, il y a quelques mois, avec Alain Sandrins,
Nous étions une dizaine, il y avait Alain Sandrin, il y avait André Parcé, qui était un grand producteur de vin de Banyuls. Il y avait d'autres amis d'Alain. Et Alain nous avait réunis pour un déjeuner de travail. Il nous demandait d'étudier nos sensations entre certains de ces plats qu'il avait mis au point pour aller sur des vins. C'était, et non pas comme on le fait souvent, on n'avait pas choisi des vins pour aller sur des plats. Là, on avait choisi les vins à l'avance et on cherchait des plats. Et on jouait sur les quatre saveurs de base qui sont, il faut le rappeler, le salé, le sucré, l'acide et l'amer. Et on évoquait bien sûr les approches les plus faciles, qui sont le salé et le sucré. L'acide qui ne plaît pas à tout le monde, et l'amer qui est déplaisant pour la majorité des gens, mais qui, lorsqu'ils trouvent un terrain propice, un palais perceptible qui aime cette amertume, on arrive à, peut-être aux plus grandes émotions de la gastronomie. Et Sandrin, cherchant à trouver le plat le plus amer possible dans son esprit, nous avait fait des artichauts, des petits artichauts tout nouveaux, mais déjà bien avec cette amertume bien typique de l'artichaut, braisés à la suze. La suze, c'est de la gentiane, et la gentiane, c'est probablement une des choses les plus amères qui soient. Et je veux dire que le mariage était vraiment fantastique. Alors, cela dit, ça n'entre pas vraiment dans un repas harmonieux, parce que derrière cela, il est vrai qu'on ne peut pas manger grand-chose. Quand on a les papilles qui perçoivent l'amertume, tellement imprégnées de cette amertume, il est difficile de venir à un autre plat derrière. Or, un grand repas, c'est une montée progressive dans le plaisir.
Mange ta soupe. Moi, ton père, je t'ai dit de bouffer ta soupe tout de suite parce que tout à l'heure je vais m'énerver. Je prends la soupière, je la fous sur la tranche, ça va être vite. Hein. Là, mon papa, il veut m'ébouillanter.
Vous écoutez France Culture, les nuits magnétiques, les plaisirs de la bouche, numéro 2, l'invention, Joël Robuchon.
L'invention, ça vient souvent en fonction du produit, parce que quand le produit est bon et de le cuisiner, c'est très facile. Et quand j'ai un produit qui me plaît, qui est nouveau ou qui m'intéresse, qui est vraiment une qualité exceptionnelle, c'est là que je le pense, disons que bon, bah, je crois que ça se passe dans la tête avant tout. Souvent, bon, bah, ça peut me faire sourire, mais je pense ce plat dans la journée, je pense le soir avant de m'endormir, et puis il m'arrive de la nuit de repenser à ce plat-là, et puis le lendemain matin d'avoir la solution, puis de l'essayer. Et en général, c'est comme ça qu'aboutissent toujours les meilleures recettes. Mais vous savez que, en fin de compte, la cuisine, on n'invente rien dans la cuisine. Hein. On ne sait pas, il y a eu tellement de choses de faites. Ce sont des adaptations, des transformations qu'on adapte au fur et à mesure. Je crois que le cuisinier, c'est un petit peu, bon, bah, c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais c'est un petit peu comme le peintre qui connaît les couleurs voulues pour avoir les tons qu'il désire dans sa peinture. Le cuisinier, c'est pareil, c'est adapter les saveurs, les arômes pour obtenir le goût qu'il veut de son plat. Et puis peut-être qu'actuellement, la différence peut-être avec la cuisine traditionnelle, qui était une cuisine fabuleuse, mais où peut-être le mélange des saveurs ne savait plus tellement ce qu'on mangeait, quel était le produit qu'on mange, que maintenant, peut-être, on recherche à une cuisine de donner le maximum de goût au produit original, de renforcer ce goût. C'est peut-être la différence qu'il y a avec la cuisine traditionnelle et la cuisine actuelle. Vous savez, dans la cuisine, moi, je trouve que les plats les mieux réussis, les plats où c'est quand vous réussissez un plat
que tout le monde est à la portée de tout le monde et que lorsque vous le mangez, il est mieux fait ou que les gens vous leur faites oublier. Moi ici, ce qui a fait la réputation de la cuisine, de la maison, c'est une pomme purée par exemple, c'est une salade. Bon, bah, cette salade, tout le monde sait faire la salade, tout le monde peut la faire chez soi, mais il y a une technique, il y a une maîtrise qui demande que ça devienne une salade qui est trop compliquée. Quand vous la voyez dans l'assiette, elle est toute simple, c'est une salade qui est mélangée d'herbes. Pourquoi ? Parce qu'un jour j'ai vu ces herbes, ces produits, puis en mangeant ces herbes qui étaient fraîches, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est bon comme ça. Et puis tout traité en salade, fait d'une manière un petit peu différente que ce qui se faisait précédemment, et bien j'arrivais vraiment à quelque chose qui était tout à fait original, peut-être que qui s'est peut-être fait autrefois ou peut-être adapté différemment, mais qui donnait quelque chose de tout à fait fabuleux et quelque chose de nouveau au goût du jour.
Ce que tu veux manger, si tu veux pas manger ta soupe. Ça, je n'y attendais pas, alors. Je mange une andouille. À ce temps-là, on mange pas d'andouille, on mange sa soupe.
Jacques Puiset.
Le véritable goût se fait au travers de choses très simples. Et c'est ça que les gens confondent. Ils pensent que tout est luxe, archi-faux. Hein, il suffirait déjà qu'on connaisse le caractère des pommes de terre. Vous savez, il y a plusieurs variétés de pommes de terre. Hein, il y en a qui sont pour la purée, d'autres qui sont pour les frites, etc. Il y en a qui se font en robe des champs. Il y en a qui sont très bien avec un hareng, pomme à l'huile. Et d'autres qui iront mieux en purée avec une saucisse. Eh bien déjà, si on savait ça, on ferait un progrès. Et ça, ça coûte pas cher. Bon, si on savait déjà bien communiquer avec son pain, bon, et avec le lait, bon, et les fruits, hein, combien de fruits vous pelez sans demander aux fruits, es-tu acide, es-tu ci, es-tu ça, hein, et combien de choses acceptons-nous justement de consommer qui sont déplorables parce que la chaîne alimentaire n'a pas rempli son travail, enfin, n'a pas soit stocké ou mis en marché comme il fallait. Et c'est bien là où on s'aperçoit que si on a un niveau de connaissance en matière de goût, non seulement on s'alimente mieux, mais on a une chaîne alimentaire plus sérieuse. Et dans un pays comme la France qui se dit gastronomique, ça, c'est navrant d'avoir peut-être un niveau général relativement médiocre.
T'as pas voulu manger ta soupe, tu ne l'as pas mangée. T'as voulu que je t'apporte une andouille, je l'ai apportée. T'as voulu que j'en mange un morceau, je l'ai mangé. Et tu chiales encore, pourquoi ?
Sans arrêt, tout ça, l'oiseau, il fait partie des jeunes créateurs de sa génération qui inventent et tout. Je vous dis tout de suite que j'ai intérêt à suivre le mouvement parce qu'un jour ou l'autre, on va dire tiens, l'oiseau, ça change, il invente plus, on le voit plus. Il faut toujours amener plus. Mais attendez, inventer aussi, ça met en mots, ça inventer. On remet au goût du jour. Hein. Parce qu'à mon avis, on n'a rien inventé en cuisine. Hein. Jean de Lavenne disait tant qu'on n'aura pas inventé les cuisses de mouche farcie, on n'a rien inventé. Hein. Alors inventer. Alors on dit l'oiseau a inventé les escargots aux orties. J'ai pas inventé les escargots, j'ai pas inventé les orties. Le mariage, j'ai peut-être inventé. Ça, j'en sais rien, puisque moi, j'ai jamais ouvert un livre de cuisine de ma vie. Hein. Moi, je fais la cuisine comme ça, l'intuition. Hein. Par exemple, tout de suite, vous me dites, l'oiseau, faites-moi une selle de vos Orloff. Je vous dis, j'en sais rien. Alors, comme je le sais pas, je vais prendre un bouquin, et puis je vais la potasser pendant 5 minutes, et je vais vous la faire. Donc, pour moi, ça, c'est pas de l'artiste, ça. C'est un manuel, vous voyez ce que je veux dire. On va vous dire, tiens, faites-moi la sole du Gléret. On va prendre le bouquin Escoffier ou la rousse culinaire. On va avoir la sole du Gléret. Il faut mettre 100 grammes de crème, 50 grammes de tomates. Boum, boum, on va le faire. Comme un pâtissier avec une recette de pâte, vous voyez. Donc, pour moi, ça, c'est pas l'artiste. Hein. L'artiste de la cuisine, c'est un gars qui dans sa tête, pense des choses et les réalise. Par exemple, moi, je ne fais jamais d'essai. C'est-à-dire, je ne dis pas, par exemple, tiens, on va essayer le turbo avec la carotte. Puis on goûte. Ah ben, dis non, avec la carotte, elle est trop sucrée, ça va pas, on va mettre du navet. Non, ça va pas, c'est du céleri. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est le plat dans la tête et on l'exécute, ça tombe. C'est ça. Alors, comme dit mon ami Michel Guérard, quand on a inventé deux plats par an, c'est déjà exceptionnel. Et ça, je suis totalement d'accord avec lui. Et puis, tout dépend aussi des traversées que vous avez dans votre vie. Vous prenez un peintre, par exemple, il démarre un tableau, puis pendant 2 ans, il le met au grenier. Pourquoi ? Parce qu'il a peut-être des problèmes familiaux entre-temps, il a peut-être des problèmes financiers et tout. Vous savez que ça joue quand même. Moi, je dis, dans un artiste, tous ces problèmes-là jouent. Bon, par exemple, moi, je vois, l'hiver, je suis moins productif qu'à partir du mois d'avril, où je vois les clients arriver en masse, et puis que ça rentre, que l'argent rentre, que je peux payer mes fournisseurs. Moi, d'un seul coup, de ma tête, c'est libéré, et je suis plus encore plus compétitif dans l'invention des plats. Alors que là, quand on voit l'hiver arriver, ben, je suis plutôt en train de m'enfoncer et tout, et j'essaye de dire non, t'enfonce pas, accroche-toi, mais je suis beaucoup plus productif, moi, quand il y a du monde que quand il n'y en a pas. C'est normal, hein.
Et comment ça vient, une idée en cuisine ?
Voilà, ça vient, c'est bizarre, hein. Moi, ça vient souvent avec le contact avec la nature. Ça, c'est très important pour moi. Par exemple, le mariage d'avant fait les escargots aux orties, c'est venu parce que dans la nature, quoi. C'est tout parce que je me souviens dans mon enfance que j'allais ramasser les escargots avec mon père, on trouvait les escargots dans les orties. Bon, puis je sais que les orties sont c'est comestible, et puis j'ai marié les escargots avec les orties. Bon, vous savez que du temps des grands-mères, on faisait les tartes aux orties, les soupes aux orties. On se fouettait mutuellement avec des orties pour la circulation du sang. Bon, donc tout ça, c'est positif. Mais après, de l'utiliser en cuisine, bon, ça a été utilisé peut-être il y a 50-60 ans, mais dans les grands cuisiniers actuellement, personne n'utilisait les orties. Alors moi, j'ai une idée comme ça, c'est tout. Et donc j'ai réutilisé les orties dedans. Mais je n'ai pas inventé les orties ni les escargots. Mais les escargots orties, peut-être, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire.
Mais c'est le hasard.
Oui, c'est le hasard. Ah, ça, complètement le hasard. C'est une chose que je ne peux pas expliquer. Je peux pas le transmettre, ça, je ne peux pas. Par exemple aussi, les grenouilles, par exemple. Bon, alors les grenouilles, c'est quoi ? C'est des grenouilles qui sont farinées, qui sont poêlées dans le beurre, c'est gras, on met de l'ail dedans. Si on mange des grenouilles, je vais vous dire toute l'après-midi, bon, ben attends, voir, repousse-toi un peu, parce que vous avez l'air monté d'ail toute la journée. Vous voyez ce que je dis ? Bon. Et moi, je suis arrivé à utiliser les mêmes ingrédients, en virant le beurre, bien sûr, et à faire la même chose. Et je vous défie de savoir que vous avez mangé de l'ail, alors que vous avez mangé de l'ail. Donc je fais les grenouilles avec de la chlorophylle de persil et avec de la purée d'ail qui se mange comme une purée de pommes de terre. Pourquoi ? Parce que l'ail est cuit dans 5 eaux différentes pour enlever 50% de la force de l'ail, mais tout en gardant le goût de l'ail. Et vous mangez ça comme une purée de pommes de terre avec les grenouilles. C'est ce qu'on appelle l'épuration, vous voyez ? C'est-à-dire que moi, je suis un peu basé sur une certaine façon de faire la cuisine que j'ai appris chez les Trois Gros et que je l'adapte à l'époque actuelle en disant, Bernard, le principe, c'est le maximum d'arômes et le minimum de matières grasses. Et à partir de là, j'obtiens tel, tel et tel plat, quoi.
L'itinéraire maintenant de Robert Vifian, jeune Vietnamien, chef du restaurant Tan Dinh à Paris.
Pour moi, ça a été assez facile. J'aimais bien manger, donc j'ai finalement aimé faire la cuisine. Ma mère m'a montré. Moi je suis quelqu'un qui s'ennuie relativement vite, et la cuisine, comment dirais-je, strictement traditionnelle, commençait à me peser. Au bout de 3 ans, je trouvais, mais pourquoi doit-on faire constamment ces mêmes plats ?
C'était lesquels, ces plats-là ?
Bah, c'était des plats classiques, pâtés impériaux, beignets de crevettes, enfin vous voyez, le riz cantonais, enfin les choses très habituelles. Alors, comme j'étais en France en ce moment-là, et que beaucoup de gens parlaient de nouveaux chefs, de nouvelles cuisines. Alors moi, je me suis dit, bon, il n'y a aucune raison. Les Français, eux, ont le droit de créer de nouveaux plats. Pourquoi pas nous ? De toute façon, toutes les cuisines du monde ont évolué selon le temps. Parce que sinon, si le Vietnam n'avait jamais créé de nouveaux plats, au Vietnam, nous mangerions encore, je ne sais pas, nous croquerons encore, des fruits ou bien... On mangerait, je sais pas, une cuisse de buffle crue, je présume. Donc il a fallu inventer des plats quelque part. Et je pense que ça est grâce, comment dirais-je, au chef français qui était en France et qui avait cette liberté, je me suis dit, bon, moi aussi, je vais prendre cette liberté. Et à partir de là, on a commencé à créer nos propres plats. Vous savez, en général, on crée d'une manière toujours très égoïste. On dit, tiens, dans ce plat traditionnel, il y a des éléments que j'aime pas. Par exemple, j'ai jamais aimé... Il y a une herbe que j'aimais pas dans certaines soupes, il y a une herbe que j'aimais pas dans certains plats. Je dis, je les aime pas, je les supprime. Et si je supprime ça, il va manquer un goût. Qu'est-ce que je vais mettre à la place ? En général, vous cherchez quelque chose qui vous plaît, que vous ajoutez. Et tâtonnement par tâtonnement, bon, c'est tâtonnement, c'est intuitif, ou bien c'est... Des fois, c'est pensé. Bah, même très souvent, c'est pensé. Mais les choses les plus élaborées
disons, intellectuellement, ne sont pas toujours les meilleurs. Des fois, il y a un plat que je crée en 5 secondes qui est nettement supérieur à un plat sur lequel j'ai réfléchi pendant 3 mois. Nous, bon, en général, on part toujours de base traditionnelle. Et on a une manière assez amusante de travailler, dans la mesure où moi, j'aime bien questionner plusieurs cuisinières de différentes générations sur le même plat. Par exemple, le pâté impérial, par exemple, qu'en France, on appelle nem. Et c'est pas tout à fait vrai, parce que chez nous, nem, ça veut dire simplement dire pâté. Or, tout le monde sait qu'il y a des millions de pâtés différents. Alors, par exemple, je prends pour la recette du pâté impérial, je demande par exemple à ma grand-mère, je demande à ma tante, je demande à ma mère, je demande à des amis, etc. Et je note les recettes. Et c'est très amusant, il y a toujours des variations. À partir de là, je gomme tout ce qu'il y a de différent dans chaque recette pour te retrouver une espèce de tronc commun. Et à partir de ce tronc commun, je décide de créer les plats que j'ai envie de créer, que je considère en fait comme la recette la plus pure possible, parce que qu'elle est débarrassée de certaines fioritures nécessaires ou peu nécessaires. Et je pense au plat de base, et en fait c'est une espèce de recherche un petit peu archéologique, si vous voulez, en quelque sorte, parce que j'imagine que c'est la recette de départ que les gens ont créée il y a quelque temps. Enfin, c'est probablement faux, si vous voulez, mais c'est amusant, comme, et je prends ça comme vraiment comme base de départ, et je la regoute, si elle est bien, sinon j'essaie de la transformer. Alors l'une de mes bases de départ, c'est de dire, pof, j'épure tout. Et la cuisine française, moi, m'a apporté, donc, dans ces années 70, et puis bon, maintenant des années 80, une espèce d'allant, dans la mesure où les cuisiniers français créent en ce moment un rythme effréné de nouveaux plats. Alors, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus dans la cuisine française. C'est vraiment cette dynamique. Et nous, pour créer des plats, on est très motivés pour une raison bien simple. C'est que moi, je pense que toute cuisine doit évoluer. Et qu'en ce moment, au Vietnam, à cause du régime qui a quand même d'autres priorités que la gastronomie de luxe, moi, je ne crois pas que le Vietnam va favoriser maintenant la création de nouveaux plats ou l'évolution de la cuisine. Ils favoriseront peut-être l'évolution d'une cuisine populaire pour pouvoir nourrir beaucoup de gens, qui peut être extrêmement intéressant. Mais ils ne donneront pas, l'autorisation de faire, à une grande échelle, sur une grande échelle, une cuisine de luxe. Alors nous prenons ça en charge, et j'aimerais bien que d'autres cuisiniers vietnamiens le fassent. Parce que sinon, notre cuisine va décliner obligatoirement.
Vous voulez prendre quelque chose ou bien vous préférez passer à table tout de suite?
Personnellement, je meurs de faim.
Alors asseyons-nous et mangeons. Nous avons une omelette aux truffes et de la patate aux morilles. Inès, vous pouvez servir? Monseigneur devrait être là, mais il a été appelé au chevet d'un mourant.
Oh, mais alors, nous devrions peut-être l'attendre.
Non, non, il a demandé que nous mangions sans lui.
Fernand, restaurant, Fernand.
On peut rien inventer, pratiquement pas. On peut faire des... Non, on peut pas... Ça s'invente pas, je pense pas. Dis des fois, sans le faire exprès, on peut faire des... une recette qui va être différente d'une autre parce que est arrivé un pépin, un accident ou... Enfin, un incident. Une fois, j'avais fait... Je sais plus quoi, j'avais pas beaucoup de place dans ma cuisine. Une petite cuisine... On appelait ça le placard à balai, comme ils disent les guides. Et j'avais pas beaucoup de place, donc j'avais au-dessus de mon fourneau une marmite de... C'est la chaudrée à l'époque, de moules, je ne sais plus, il y avait des moules, de fond de moules dedans. En dessous, j'avais un lapin qui était en train de mijoter, et la marmite de moules est tombée dans le lapin. Bon, j'ai pas voulu foutre mon truc en l'air. Et puis, j'ai rissolé tout ça, et c'était formidable, ça a fait une sauce extraordinaire. Bon, les recettes, ça ne s'invente pas, il y a des très grands classiques qui a été scoffé. Bon, il y a toujours des trucs qui sont repris. Inventer, c'est dur. bah, mes spécialités, on les connaît, tout le monde les connaît. Bon, je suis un spécialiste du canard, sous toutes ses formes, y compris le canard à la rouennaise, le canard au cidre et aux pommes, le canard grillé au sel, le canard... cette semaine-là, j'ai fait du canard avec une sauce grand veneur, parce que j'ai des clients qui viennent tous les jours, ça me pose des problèmes de conscience, parce que, comme je sais, en plus, c'est des fines gueules, alors je suis tous les jours inquiet, qu'est-ce que je vais leur faire. Et comme ils savent que j'ai toujours un petit truc à sortir de derrière les fagots, alors ils m'appellent, Fernand, qu'est-ce que tu nous fais, qu'est-ce qu'on mange? Voilà, alors je suis obligé de varier comme ça, puis des fois je n'ai pas envie, et puis des fois je me demande qu'est-ce que je vais leur faire, et puis une fois je suis dedans, que j'ouvre la porte de mon frigo, je dis tiens, ben voilà, je vais faire ça, ça part tout seul.
Jean-Michel Lorrain, chef, fils de chef, à Joigny.
Il y a mes inventions à moi. On ne peut pas vraiment dire qu'on a une cuisine différenciée, le père et le fils. On travaille les plats souvent, au départ c'est vrai tout seul, mais chacun apporte sa petite note particulière. On goûte les plats ensemble, on les fait déguster aussi aux femmes qui sont là, qui sont souvent nos critiques assez sévères. Et puis... ensuite, bon, on décide, on fait quelques petits aménagements, mais le plat n'est jamais le fait d'une seule personne en général. Il y a quand même un ou deux plats que je pourrais vous citer. Je fais une terrine d'huîtres, une petite gelée d'huîtres, un plat assez particulier où on poche les huîtres dans leur jus très légèrement, et ensuite on fait prendre ce jus avec du vin rouge légèrement gelé, et on marie ça avec des échalotes confites. Voilà, ça fait un mariage assez spécial, mais qui passe très bien et qui est très agréable. Un autre plat en ce moment, c'est les Saint-Jacques en barde de céleri. Ce sont des Saint-Jacques que l'on poêle et que l'on enveloppe d'une petite pellicule de céleri, qu'on appelle une barde, comme on barde un rôti, et que l'on sert avec un petit jus de viande et de poisson mêlé, et qui est aussi très agréable, parce que la Saint-Jacques a un goût un petit peu sucré, un petit peu nuancé, et ça se marie très bien avec une sauce un petit peu plus puissante.
On réclame une prix, une cassolette de Saint-Jacques, s'il vous plaît. Allô, messieurs, ça marche ici. Deux couverts avec une carte et un menu. Au menu, on a une salade de haricots. Pour suivre, on a une prix et un pois chaud. Ouais. La prix menu, bien sûr. La prix menu. Une prix menu et un pois chaud carte.
Patrick Bertrand, jeune chef d'un très grand chef, celui de Bernard Loiseau.
Comment je suis devenu chef? Moi, je suis devenu chef. Je suis arrivé ici comme commis et puis j'ai monté toutes les étapes comme ça. Je suis arrivé chef en l'espace d'un an et demi. Disons que c'était un concours de circonstances. Je suis arrivé, je sortais de l'armée. Et puis, j'étais en pâtisserie. Et après, je suis monté comme chef de partie à la viande. Le second de cuisine est parti, et donc je l'ai remplacé. Vu du fait que j'étais le plus ancien et puis que je connaissais la maison. Ici, à la Côte d'Or, il y a trois postes. Hein. C'est une petite brigade, donc c'est pas comme dans les grandes maisons. Enfin, à la Côte d'Or, il y a le poisson, la viande et la pâtisserie où on fait quelques entrées froides. Autrement, tout se passe soit à la viande, soit au poisson. Et il n'y a pas non plus de partie légumes. C'est-à-dire que le poisson fait ses légumes et la viande fait ses légumes. Par exemple, dans d'autres maisons où il y a un fourneau central, par exemple, il y a une partie qui cuit ses poissons, l'autre partie qui cuit sa viande, et il y a une partie qui fait les légumes pour le poisson et pour la viande. C'est-à-dire qu'il dresse sur les assiettes les légumes et il les donne après à la partie concernée. Alors qu'ici, nous, à la Côte d'Or, c'est le poisson qui fait ses légumes, qui les dresse sur les assiettes et qui dresse le poisson ensuite dessus. Et pareil pour la viande. C'est-à-dire qu'on doit savoir tout faire et on doit savoir comment ça doit partir. Et être capable aussi de dire non, ça va pas, vous recommencez.
Ça vous arrive ça de...
Oui, très souvent.
D'annuler un plat parce que vous le trouvez pas bien.
Oui, c'est soit à l'aspect, soit au goût. Parce qu'on doit en principe ou en théorie tout goûter. avant que ça soit dressé. Bon, des fois, il arrive que, bon, une fois que c'est dressé, si le plat nous plaît pas, si c'est pas dressé correctement, on le renvoie à la partie concernée. Et il recommence.
Tout à partir d'un autre produit?
Bah, ça dépend ce qui ne va pas. Si simplement le dressage, non, on rectifie l'assiette. Mais si c'est le poisson ou la viande qui est trop cuite ou pas assez cuite, on recommence. Aussi bien, et dans ce cas-là, on est obligé de recommencer aussi les légumes et la sauce. Parce que bon, bah, nous ici à la Côte d'Or, du fait qu'on fait tout à la commande, on ne peut pas redresser le légume ou la sauce. Parce que sinon, ça aurait pas l'aspect ni le goût qu'on veut. Alors bon, disons que c'est un travail qui est important, c'est aussi un travail de fourmi, mais on s'y fait.
Et quand vous avez tout goûté à la fin du service, vous arrivez à manger?
Non. Alors en général, à la fin d'un service, si bon, je sors et qu'on me propose quelque chose à manger, je dis non parce que j'ai pas faim. D'ailleurs, même maintenant, tous les jeunes cuisiniers, c'est rare de voir des jeunes cuisiniers comme on les voyait dans le temps avec des kilos qui pèsent 100, 120 kilos parce que, bon, déjà, les recettes sont beaucoup plus légères et puis, bon, bah, on est un peu écœuré, quoi. Après, moi, je sais personnellement que je mange très, très peu. Pendant un repas, je mange très peu parce que je sais que je suis déjà le matin quand on fait les préparations, bon, bah, ça m'écœure un peu. Ça m'écœure pas au niveau de goûter les aliments, mais pour avoir faim après, j'ai plus faim. En général, j'ai faim que quand je suis en repos, quoi, quand je cuisine pas. Quand je suis chez moi, que j'ai rien fait, bon, bah là, j'ai faim. Mais autrement, non, quand je travaille, je ressens jamais la faim. Alors, bon, bah, on mange très peu, et puis de toute façon, on se nourrit en goûtant tous les plats qu'on fait. Mais non. C'est pas la grande fin.
C'est la 17 ?
Là, ah oui. Là, je vous envoie un crabe. Avec deux pommes de caviar, c'est la 17. On a le crabe ici.
C'est ça.
Je crois que c'est vert parce que...
Vous voyez comment votre avenir ?
Je sais pas. Aucune idée. Bah, toujours dans la cuisine pour l'instant, oui, mais enfin, je peux pas savoir dans 20 ans si j'aurai toujours le feu sacré pour être derrière un fourneau, pour toujours travailler vite, être à la chaleur, faire des horaires, je sais pas. Je pense que oui pour l'instant, mais je peux pas vous dire dans 20 ans si j'aurai toujours envie. C'est très dur, c'est très prenant aussi bien sur la vie privée que professionnelle.
Nuit magnétique, les plaisirs de la bouche numéro 2, le goût, le plaisir, l'invention. Avec Fernand Reynaud, Toto, Louise Buñuel, les charmes discrets de la bourgeoisie, Joël Robuchon, Vincent Giraud, Bernard Loiseau, Gérard Allemandou, Alain Dutournier, Michel Crisolde, Jacques Puiset, Robert Vifian, Michel Piau, Fernand, Jean-Michel Lorrain, Patrick Bertrand. Jean-Mathieu Zande, Yann Parentoen, Bruno Sourcy, Laure Adler.
C'était Les plaisirs de la bouche, deuxième partie, le goût, le plaisir et l'invention. Le deuxième de 4 épisodes d'une série des Nuits magnétiques, diffusée pour la première fois le 30 décembre 1987. À suivre.